Le journal avec vous, Kevin Dufraîche, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, les interrogations autour des formes graves de Covid chez les enfants. Il n'y a pas d'explosion des cas, mais en Martinique, les médecins en voient de plus en plus, de quoi inquiéter à une semaine de la rentrée. Le Covid, qui après avoir perturbé les JO, complique la vie des Jeux paralympiques qui commencent aujourd'hui. Déjà 150 cas positifs chez des personnes en lien avec les Jeux et la menace d'une interruption si nécessaire. Dans ce journal encore, le profil des réfugiés afghans rapatriés en France, scruté par le renseignement. Explication alors qu'un homme suspecté de lien avec les talibans est sous surveillance renforcée. Elle l'appelle de la procureure de Marseille. Elle réclame plus de moyens pour lutter contre les règlements de compte. Éric Dupond-Moretti est sur place aujourd'hui. Et puis moteur pour le festival d'Angoulême, festival des films francophones qui ont bien besoin de lumière en ce moment.
À 7h45, les faits divers, les tueurs en série, elles ont fait des polars du réel. Journaliste police pendant près de 30 ans au journal Libération, Patricia Touranchot revient sur Guy Georges, le tueur de l'Est parisien. Son livre La Traque, une réédition augmentée demain en librairie, et un documentaire en septembre sur Netflix. Patricia Touranchot au micro Inter dans un quart d'heure.
France Inter.
Le Covid touche-t-il de plus en plus les enfants?
Question d'autant plus importante que la rentrée c'est dans 8 jours. Maintenant, le Covid va forcément circuler dans les salles de classe, d'autant plus avec le variant Delta plus contagieux. Pour l'instant, les autorités sanitaires ne notent pas une explosion des cas chez les enfants. Mais le récent décès d'un nourrisson testé positif en Occitanie interroge. Une enquête est d'ailleurs en cours. Et en Martinique, où la population est très peu vaccinée, les Covid pédiatriques, comme on les appelle, sont une vraie préoccupation. Notamment car il y a peu de lits de réanimation. Sophie Bécherel.
Chaque jour, aux urgences de Martinique, une dizaine d'enfants arrivent, tous fiévreux. Un ou deux seulement nécessitent d'être hospitalisés et actuellement, deux sont en réanimation sur les trois lits disponibles. La situation semble donc sous contrôle, selon le docteur Olivier Fléchel, mais ce pédiatre réanimateur de la maison de la mère et de l'enfant craint l'arrivée d'autres formes graves du Covid, avec atteinte cardiaque, les fameux PIMS, syndrome multi-inflammatoire systémique.
Nous, on en a déjà eu une dizaine de cas sur les trois vagues qu'on a eues sur la Guadeloupe et la Martinique, alors qu'on n'avait pas des vagues majeures. Donc on se dit là, on a une très grosse vague, vraiment, voire un tsunami. On risque d'être un peu submergé dans 2-3 semaines.
Sans compter une épidémie de prématurés, ajoute-t-il, des bébés qu'il faut placer en réanimation après les avoir extraits en urgence du ventre de leur maman. Ces 10 derniers jours, 7 d'entre elles se sont retrouvées en détresse respiratoire après avoir attrapé le Covid, le docteur Olivier Fléchel.
Le problème, c'est que c'est des enfants qui restent longtemps en réanimation. Nos équipes, elles sont formatées pour 6 enfants en réanimation néonatale et 3 enfants en réanimation pédiatrique. Et donc ben là, elles font quasiment 3 fois plus de travail et elles sont épuisées, quoi. J'ai peur que nos équipes craquent, quoi.
Le transfert en métropole n'est pas toujours supportable pour ces prématurés. Seuls des renforts importants pourraient soulager les soignants de Martinique.
Sophie Bécherel, dans les hôpitaux, on peut s'attendre à un pic de patients dans les prochains jours, selon Olivier Véran. Mais avec les retours de vacances et la rentrée scolaire, le ministre de la Santé appelle les Français, je cite, à faire très gaffe. Le Covid qui va à nouveau gâcher la grande fête du sport à Tokyo. Les Jeux paralympiques s'ouvrent aujourd'hui à 13h de Paris. Sauf que le Japon subit une nouvelle vague sévère, 5000 cas par jour rien qu'à Tokyo, dont plusieurs dizaines au sein du village paralympique. Les hôpitaux saturent et les Jeux pourraient en pâtir. À Tokyo, la correspondance de Karine Nishimura.
À Tokyo, entre le 2 et le 15 août, sur près de 4000 requêtes de transport à l'hôpital de patients Covid-19, plus de la moitié n'a pu se faire, faute de place. Masataka Inokuchi, directeur d'un hôpital de la capitale.
À ce rythme-là, les limites du système de soins vont être dépassées. On n'arrivera plus à sauver les vies qui devraient l'être.
Déjà, plus de 150 personnes liées aux Jeux paralympiques ont été testées positives, dont plusieurs sportifs. Il n'y a pas de lit prioritaire pour eux dans les hôpitaux. Masa Nakamura, directeur des opérations des Jeux de Tokyo.
Les Jeux paralympiques devront se faire dans des conditions médicales très difficiles. Il est nécessaire de faire part de la situation aux athlètes, de leur dire qu'elle s'aggrave, que les lits d'hôpitaux manquent et qu'il faut qu'ils respectent encore plus les règles.
Dans le pire des cas, il faudra même prendre des décisions plus radicales, juge Nobuhiko Okabe, expert auprès des organisateurs.
Débuter les Paralympiques ne signifie pas que tout peut se faire. Si besoin, l'option de l'interruption doit aussi être mise sur la table.
Pour l'heure, la fin des Paralympiques est prévue le 5 septembre. Tokyo, Karine Nishimura, France Inter.
Et la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques, c'est donc aujourd'hui à 13h. L'actualité à l'étranger, c'est aussi la réunion de crise des dirigeants du G7 aujourd'hui sur la situation en Afghanistan et une question centrale, jusqu'à quand et comment assurer les évacuations. Joe Biden a ouvert la porte à un maintien de la présence militaire américaine au-delà du 31 août pour sécuriser l'aéroport de Kaboul, ce que souhaitent notamment la France et le Royaume-Uni. Mais pour les talibans, ça constitue une ligne rouge, réplique leur porte-parole. Les islamistes ne veulent plus voir de soldats occidentaux d'ici une semaine. Les occidentaux qui évacuent, de nombreux Afghans aussi, ceux qui sont les plus en danger. 1200 sont arrivés en France depuis 8 jours. Et voilà que l'un d'entre eux est soupçonné de lien avec les talibans. L'homme en question a reconnu avoir tenu un barrage à Kaboul avec les islamistes. Mais selon le ministère de l'Intérieur, il a aussi beaucoup aidé à évacuer l'ambassade de France. Cet homme et 4 de ses proches sont donc sous surveillance renforcée. Le temps d'évaluer leur véritable lien avec les talibans. Et Ariane Grissel, tous les rapatriés font l'objet de ce type de vérification.
Parmi les 2000 personnes que la France dit avoir évacuées d'Afghanistan pour le moment, il y a celles qui travaillaient pour les autorités françaises. Celles-là sont donc connues et ont déjà fait l'objet d'une vérification. Pour ce qui est des autres candidats au départ, la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, vérifie le profil de chacun via les fichiers des différents services de renseignement présents dans le pays depuis des années et qui, avant l'arrivée des talibans, avaient déjà dressé une liste des personnes jugées à risque. Quant au moment où se fait cette recherche d'informations, l'ambassade de France a été délocalisée à l'aéroport de Kaboul, mais la situation y est actuellement trop confuse pour tout vérifier sur place, d'autant qu'il faut parfois partir vite. Des interrogatoires peuvent donc être menés pendant l'escale à Abu Dhabi. Selon le ministère de l'Intérieur, les ressortissants afghans dont la situation semble suspecte n'embarquent pas vers Roissy tant que tous les doutes ne sont pas levés. Gérald Darmanin l'assure, les 5 personnes dont la surveillance a été révélée hier sont les seules qui ont, à ce stade, fait l'objet d'un signalement par la DGSI.
Ariane Grissel du service police-justice de France Inter.
7h37, Éric Dupond-Moretti attendu à Marseille aujourd'hui.
Officiellement un déplacement sur le thème de la justice des mineurs, mais le ministre de la Justice sera à coup sûr interpellé à propos des règlements de compte qui ont encore endeuillé la ville ce week-end avec 3 morts. Et hier, la procureure de la République de Marseille tenait une conférence de presse avec des chiffres et un message. Clémence Gourdon-Négrigny.
Depuis le début de l'année, il y a eu 15 victimes de règlements de compte à Marseille. Et sur les 15, 12 sont morts ces 2 derniers mois. Dominique Laurence note aussi une explosion de la violence.
Sur les 2 affaires de ce week-end, les autopsies ont révélé donc pour l'homme qui avait été enlevé que celui-ci donc était vivant au moment de l'incendie du véhicule. Sur les 2 autres jeunes hommes qui ont été tués, on voit vraiment un acharnement véritablement à les tuer.
Des faits d'une extrême violence, insiste la procureure, qui dénonce un cruel manque de moyens pour y faire face.
Nous avons des missions très spécialisées qui nous ont été confiées par le législateur pour les mener à bien sur un très très vaste territoire qui va bien au-delà de Marseille. Nous estimons que nous manquons de moyens à l'heure actuelle en termes de magistrats et en termes de fonctionnaires.
C'est dans ce contexte que le ministre de la Justice est en visite à Marseille aujourd'hui sur le thème de la justice des mineurs, une semaine avant Emmanuel Macron qui doit annoncer un grand plan pour la ville.
Clémence Gourdon-Négrigny, France Bleu Provence. Emmanuel Macron qui sera en effet à Marseille pour plusieurs jours en fin de semaine prochaine. Début d'une stratégie d'occupation de l'espace médiatique. Le chef de l'État ne veut surtout pas se laisser enfermer dans la crise du Covid à 8 mois de la présidentielle. Simon Le Baron.
Le calendrier a été soigneusement préparé. À chaque semaine, sa thématique imposée par l'exécutif. Première semaine de septembre, le social avec la réception des syndicats et du patronat à Matignon. Deuxième semaine, la souveraineté industrielle avec la présentation du plan France 2030. Troisième semaine, le régalien avec la conclusion du Beauvau de la sécurité, probablement par Emmanuel Macron lui-même. Quatrième semaine, la solidarité avec le lancement du revenu d'engagement pour les jeunes. La stratégie est claire, être au centre du jeu, obliger nos adversaires à réagir à nos sujets, explique un conseiller. Entre une épidémie loin d'être terminée malgré les progrès de la vaccination et une contestation anti-pass en légère perte de vitesse, mais toujours susceptible de cristalliser les tensions, le président veut tout faire pour ne pas subir les événements. Action, 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 répète l'Élysée, jusqu'au bout donner l'image d'un président au travail. Un exemple, quand une bonne partie de l'exécutif juge désormais impossible de réformer les retraites avant 2022. L'entourage d'Emmanuel Macron assure que lui a toujours l'intention de le faire.
Enfin, une semaine de cinéma à Angoulême.
Le festival du film francophone se déroule jusqu'au 29 août avec 10 films en compétition et Nicole Garcia en présidente du jury. Un festival d'autant plus important cette année avec la crise Covid et l'instauration du pass sanitaire. Beaucoup de films français ont besoin d'un coup de projecteur. Alexis de Meyer.
Un été morose pour le cinéma français avec certes deux gros succès, Kaamelott et OSS, mais qui cachent une forêt de déceptions au box-office, notamment pour les films d'auteur. Parmi les longs métrages en compétition au festival d'Angoulême, Mon Légionnaire de Rachel Lang, bien consciente que le contexte n'est pas idéal pour sortir un film.
Mais c'est très compliqué de se projeter en ce moment. Donc c'est vraiment une joie d'imaginer que je vais pouvoir comme ça recueillir la vibration dans une salle du public, puisque c'est un projet qui a été conçu pour le grand écran.
Le très attendu FL avec Romain Duris sera lui projeté en avant-première ce soir à Angoulême.
Je vois pas l'intérêt de construire un machin qui sert à rien, qui va falloir démonter juste après.
Son réalisateur Martin Bourboulon est impatient, d'autant que la sortie de ce biopic sur Gustave Eiffel a déjà été repoussée 4 fois.
Profiter de cette ouverture du Festival d'Angoulême, qui est un moment donné où les spectateurs reprennent un peu le contact avec les films de la rentrée, c'est vraiment une occasion pour nous formidable, surtout après cette période un peu chahutée.
Dominique Besnéard, le délégué général du festival, préfère pour sa part adopter la positive attitude.
Bon, on passe par des moments difficiles, mais faut pas qu'on commence à dire c'est terminé, ça peut pas être terminé le cinéma, c'est impossible. Et je pense qu'Angoulême, sans être prétentieux, ça va être le déclic pour retourner au cinéma.
Il y a un mois, l'obligation du pass sanitaire a divisé par 2 la fréquentation des salles obscures.
Alexis Demeyer. Enfin, c'est un gros coup pour Universal Music. Le label musical filiale du français Vivendi annonce avoir acquis l'intégralité du catalogue d'Aerosmith, le tout à un mois de l'entrée en bourse d'Universal Music. Et alors que le mythique groupe de rock américain va fêter ses 50 ans de carrière, Dream On, c'était en 73.
Souvenir. Merci Kevin Dufresne. L'édito éco à suivre.